France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Qu'est-ce que ça fait à un texte d'être écrit tout près d'une image ? Qu'est-ce que ça fait à une image de se faire visiter, regarder, imaginer par un texte ? On parle souvent du dialogue entre les images et les mots, mais dans quelle langue se parlent-ils quand ils se parlent ? Et dans quelle langue nous parvient leur conversation ? Aujourd'hui, votre book club se pose au moins toutes ces questions avec deux artistes qui lient leur pratique des mots à leur amour des images. Marceline Delbecq et Guillaume Geneste ont chacun, à leur manière, feuilleté le grand album des familles. Vers 15h50, comme chaque lundi, nous avons rendez-vous avec Emmanuel Laurentin. À lui qui suit l'actualité de près, nous avons demandé de sortir en écho un ou plusieurs livres de sa bibliothèque. Aujourd'hui, il parle foot, hooligan et société fracturée avec un bouquin de John King. Et en fin d'émission, on se quitte avec le grand jeu des pages musicales. Vous avez le programme, on est ensemble pour une heure. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Bonjour Marceline Delbecq.
Bonjour Marie Richeux.
Vous êtes artiste, écrivaine, chercheuse. Votre dernier livre, Envolé, a paru aux éditions Sunson dans la collection Fléchette, où des textes contemporains dialoguent avec les images des archives de la planète d'Albert Kahn. Soyez la bienvenue dans le Book Club.
Merci.
Et bonjour Guillaume Geneste.
Bonjour Marie.
Vous êtes photographe, vous êtes aussi auteur, vous êtes tireur, notamment depuis l'Argentique à la Chambre Noire que vous avez fondée. Votre livre s'appelle « Tout autour de la photographie ». Il a paru, lui, aux éditions de La Main d'Homme. Soyez le bienvenu dans le Book Club. Alors ici, tout commence par un questionnaire de lecture. Et c'est pas parce qu'il va être beaucoup question d'images qu'on ne va pas parler de livres. Au contraire, Marceline Delbecq, est-ce que vous vous souvenez où et quand vous avez appris à lire ?
Alors, j'écoute l'émission assez régulièrement, donc j'ai eu le temps de réfléchir à cette question.
C'est un petit jeu auquel ça donne certains auditeurs.
Voilà. Et en toute honnêteté, j'ai vraiment un très vague souvenir de la classe de CP, d'un manuel qui s'appelait l'histoire de Greedy, je crois, un petit lapin, d'une institutrice assez sévère. J'ai finalement plus de souvenirs de voir mes enfants apprendre à lire. Mon fils a appris en CP d'une traite, vraiment au tout début du CP, et s'est plongé dans la lecture ensuite, comme s'il il était lui-même dévoré par les livres. Et ma fille a appris toute seule à lire en moyenne section, en nous lisant un livre dont j'étais persuadée qu'elle l'avait appris par cœur, et en fait elle le lisait. Et ça, voilà, c'est plus d'émerveillement pour moi que le moment où j'ai appris moi-même à lire, qui m'a évidemment accompagnée jusqu'à maintenant, mais dont j'ai pas de souvenir.
Est-ce qu'elle a mis des mots dessus, votre fille qui a appris toute seule? Est-ce qu'elle a dit comment elle a fait?
Elle a jamais dit comment elle le fait.
Un jour, elle a ouvert un livre.
On lui lisait des histoires depuis qu'elle était tout bébé, mais elle a jamais expliqué le processus mental qui lui avait permis d'apprendre toute seule à déchiffrer les mots.
Vous-même, est-ce que vous avez été une enfant lectrice ?
J'ai été très lectrice pendant très longtemps. J'ai eu la chance de grandir avec beaucoup de livres. Grande bibliothèque dans un couloir. On était trois enfants, donc on avait chacun et chacune ses lectures. Mais en tout cas, la présence des livres vraiment très très forte. Et puis, d'être allée très tôt à la médiathèque, dans la petite ville dans laquelle j'ai grandi. Mmh. Et qu'en tout cas, les livres fassent vraiment partie de la vie.
Quand vous dites présence des livres, c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent sous cet ordre-là, à savoir presque leur corps, leur matière, qu'est-ce que ça diffuse des livres dans une maison ou dans une médiathèque ou dans une bibliothèque municipale. Justement, puisque vous avez aussi ce rapport-là plastique par votre pratique, vous diriez quoi ? C'est quoi un livre dans un espace ? Ça dégage quoi ?
Alors, c'est une présence sur mon bureau, par exemple, j'ai 4 ou 5 livres qui ne bougent pas, que je feuillette régulièrement, qui sont notamment des livres d'Ethel Adnan, et qui sont des accompagnateurs de la pensée, de l'écriture, de la vie. Et c'est vrai que je suis pas du tout matérialiste, mais j'ai beaucoup de mal à me défaire des livres, parce que ils ont cette force muette, en fait. Si on les active pas, voilà, ils sont qui ils sont, où ils sont, et que finalement ils ont un écho permanent. Enfin, il suffit de lire une tranche de livre pour savoir exactement ce qu'on en a pensé ou si on a envie de le relire. Et ça, je trouve ça magnifique.
Vous parlez de la bibliothèque de l'enfance, dans un couloir, Marceline Delbecq, visité aussi avec les frères et sœurs. Aujourd'hui, elle a quoi comme forme, votre bibliothèque ?
Alors, j'ai déménagé de nombreuses fois, donc elle se reconfigure à chaque déménagement.
En diminuant ou en grandissant ?
Plutôt en diminuant ou en se faisant la promesse qu'elle va diminuer et d'être complètement excroissante. Donc, il y a deux grandes bibliothèques de part et d'autre d'une cheminée au salon, une troisième sur le mur d'en face, et puis des livres par pile un peu partout dans la pièce.
Plutôt beaucoup de livres alors ?
Plutôt beaucoup de livres.
Est-ce qu'il y a une proportion importante, petite ou nulle de livres qui comportent des images ?
Alors ça, j'ai jamais réfléchi à cette proportionnalité. Il y a effectivement beaucoup de livres de photographie que je consulte finalement moins que les ouvrages littéraires. Et j'ai une bibliothèque qui est absolument pas classée, ni par ordre alphabétique, ni par collection. Donc tout ça est un savoureux mélange dont j'ai une mémoire visuelle, mais je suis à peu près la seule à pouvoir décrypter.
Mais vous savez où pouvoir trouver les choses si vous les cherchez.
Toujours ou plus ou moins.
Je disais tout à l'heure que vous et Guillaume Geneste, c'est pareil, vous faites pratiquer votre art littéraire très proche d'une lecture des images. Est-ce que vous vous souvenez avoir appris à lire les images ?
Alors, j'ai pas appris à lire les images. Je crois que ça s'est fait presque par défaut. J'ai commencé par faire des études de photographie. Donc, je me destinais vraiment à fabriquer des images. Et puis, assez rapidement, je me suis ennuyée de mes propres images. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai eu envie de leur faire dire d'autres choses, très maladroitement, sans doute, au début. Mais, je crois que j'ai appris à le faire toute seule. Et puis, c'est plutôt avec les années passant que notamment les visual studies anglo-saxonnes ont aussi beaucoup contribué à ma manière de regarder les images et puis de les prendre pour ce qu'elles sont et de pas forcément tirer des fils fictionnels mais plutôt d'essayer de comprendre ce qu'est une photographie en tant que telle.
On a dit que vous étiez enfant lectrice, mais si vous deviez comme ça jalonner votre parcours de lectrice en quittant l'enfance, est-ce qu'il y a des textes qui ont été importants ? Est-ce qu'il y a des textes qui vous ont fait changer de cap ? Peut-être 4-5 livres si vous redéménagez que vraiment vous emmenez avec vous ?
Alors, je crois qu'il y a un livre qui a été extrêmement important que j'ai lu quand j'étudiais la photographie donc à New York il y a de nombreuses années et qui est le On Photography de Susan Sontag sur la photographie et il a été notamment important pas tellement pour le contenu du texte parce que je pense qu'à l'époque j'ai pas tout compris mais il a été très important pour la couverture qui représentait un couple qui tenait un daguerréotype. Et cette image m'a beaucoup, beaucoup intriguée et parce que je la trouvais à la fois très profonde et très triste. Et puis, elle était vraiment une mise en abîme de la photographie elle-même pour rentrer dans le livre. Et sinon, des livres importants, j'en découvre tout le temps. Je ne saurais pas faire une liste. J'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, on ne cesse de publier des choses passionnantes.
C'est bon d'entendre ça.
Oui, et en tant que lectrice, c'est formidable aussi. C'est vraiment la promesse de toujours découvrir quelque chose.
Elle est devant la liste, quoi.
Elle est devant.
Oui. Guillaume Geneste, est-ce que vous vous souvenez où et quand vous avez appris à lire ?
Non, j'ai aucun souvenir de... Je me souviens vaguement de... En CP, peut-être, oui, aussi, d'une professeure de livres. Je me souviens de couleurs sur des pages de livres, mais je me souviens pas de moi en train de lire. Je me vois pas en train de lire.
Ça veut dire que pendant toute l'enfance, vous êtes tenu plutôt assez loin des textes, assez loin des livres?
Oui. Et bien même après, d'ailleurs, c'est par la photographie que j'ai plutôt découvert la lecture, le plaisir de lire, hein, en lisant souvent des préfaces de livres. Mais en littérature, j'ai relu plusieurs fois les mêmes livres, L'étranger, Camus, des livres comme ça qui m'ont marqué. Mais
adolescent, vous voulez dire, ou jeune adulte ?
Adolescent, jeune adulte, oui. Ouais.
Et en dehors de L'étranger, est-ce qu'il y a comme ça 4-5 livres qui vous ont quand même rapproché des textes ou vous étiez vraiment loin, Guillaume Geneste ?
Non, j'étais vraiment loin. Mm. J'étais vraiment loin. Je me souviens, mon père qui lisait des livres dans la bibliothèque, des livres de Céline. Ma mère était du Berry, donc des livres de George Sand. Mm. Je vois mon père lisant Saint-Antonio. Alors là, les Saint-Antonio, il dévorait ça.
Mais il y avait des livres chez vous quand même.
Oui, bien sûr, ouais. Il y avait des livres, mais pas vraiment de la littérature. En tout cas, ils étaient dans la bibliothèque, ils étaient fermés à clé. J'y accédais très, très, très rarement. C'est vraiment par la photographie après que j'ai apprécié la lecture.
Et alors justement, ce détour par les préfaces de livres de photographie, est-ce que ça vous fait aller voir d'autres textes que les seuls textes consacrés à la photographie, ou vraiment votre appétit de lecture se consacre à partir de ce moment-là à des textes qui se rapportent aux images, à une pratique que vous avez par ailleurs, au tirage, etc., etc.
Oui, j'ai un caractère assez obsessionnel, et donc du coup, oui, c'est très très lié.
Vous creusez ça.
Oui, c'est très très lié à la photographie, au cahier de la photographie. C'est très lié aussi à mes rencontres, avec ma rencontre avec Denis Roche, hein, pour qui j'ai travaillé en tant que tireur pendant 30 ans. Et puis bien sûr après avec Roland Barthes, avec Hervé Guibert, mais c'est toujours autour de la photographie.
Toujours encore.
Et toujours encore, oui. Alors un peu plus maintenant vers la lecture, mais quand même toujours autour de la photo.
Est-ce que vous avez une table de chevet? Est-ce qu'il y a des livres dessus?
Dernièrement, Bertrand Schaeffer, qui parle de Francesca Woodman. Là, j'ai adoré lire son livre. Comment ils s'en est emparé. Grégoire Bouillet, Rapport sur moi. Ça, j'ai adoré. D'ailleurs, il pourrait tout à fait faire l'objet d'un futur auteur dans notre collection Poursuite et Ricochet. Voilà, des gens que je contacte. Donc, à travers cette collection-là, d'ailleurs, ça me donne l'occasion d'aller voir des auteurs maintenant.
Donc, vous pouviez soupçonner, avant de les lire, qu'ils avaient un rapport singulier avec les images ?
Oui, toujours.
Comment ça se sent, ça ? Comment on sait que quelqu'un, c'est une sorte de... C'est un peuple, les gens qui aiment la fréquentation des images ?
Il y en a de plus en plus maintenant, hein. Vraiment. Je vois qu'il y a de plus en plus d'auteurs, Marceline, il y a plein d'auteurs, on le voit dans la collection de Sun Sun. C'est très facile de trouver des gens qui ont envie de parler de la photographie et qui en parlent de mieux en mieux. Avant, la photographie, elle était là vraiment, je trouve, pour décorer, pour rajouter quelque chose. Je me souviens, je me faisais la réflexion l'autre jour sur que j'avais connu le Monde sans photographie et que dans le Monde, dans les années...
Le Monde, le journal Le Monde ?
Oui, que dans les années 80, il n'y avait aucune photographie. Il y avait des photos dans Libération, hein, avec l'agence Vue, Christian Cojol. Et je lisais Libération, je lisais pas Le Monde. C'était fastidieux pour moi. Maintenant, j'ai un abonnement dans Le Monde, mais il y a de la chance d'avoir des photographies dans Le Monde.
Donc voilà, vous, en tout cas, pour ce qui est de la lecture et du texte, c'est toujours autour, proche, à côté des photos.
Tout à fait.
On va parler de vos deux livres et de ces deux collections dans lesquelles ils sont publiés, juste après une chanson de Dominique A. Et juste après cette petite information, je voulais renvoyer nos auditeurs à une expérience que vous avez signée pour France Culture, Marceline Delbecq, à partir de votre correspondance avec la poétesse écossaise Kathleen Jamie. Ça s'écoute sur franceculture.fr.
Bientôt nous porterons le manteau retourné de l'enfance, comme nous ralentirons, les jours fileront. Bientôt nous porterons le manteau retourné de l'enfance. Le corps a pris tellement d'avance, il a filé si loin devant. On a encore des jeux d'enfants que certains déjà font silence. Le miroir douche l'espérance, mais l'envie de vivre est butée. Elle nie que la marée descende, puisqu'elle-même ne fait que monter. Bientôt nous porterons le manteau retourné de l'enfance, comme nous ralentirons, les jours fileront. L'ombre s'est déplacée trop tôt, on ne voit plus qu'entre les branches. Une terre flottant dans un halo où les couleurs sont en errance. Se joue plus qu'au-dedans, tant l'extérieur nous est fermé. On y est comme pièce rapportée, l'odeur étrange d'un autre temps. L'ombre s'est déplacée trop tôt. le corps a pris tellement d'avance. On ne voit plus qu'entre les branches une terre flottant dans un halo.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Il y a plusieurs manières d'écrire près des images. On les décrit, on décrit l'impression qu'elles nous font, leur oubli, leur retour, leur trouvaille. On écrit dans leur marge ou en plein dedans, on écrit depuis elles ou en les quittant. Les deux livres de nos invités et plus largement leur pratique entière connaissent tous ces mouvements. Dans Envolée, petit livre paru aux éditions Sun, vous écrivez Marceline Delbecq, à partir d'un photogramme de 1919, on y voit, au milieu de la végétation du parc Albert Kahn à Boulogne, la famille Kamenka. Et cette archive, initialement filmique, devient un caillou supplémentaire sur la piste de votre babouchka Daria, partie en catastrophe de Russie à l'aube de la révolution de 1917. Dans Tout autour de la photographie, votre livre paru aux éditions La Main Donne, vous écrivez Guillaume Genest à partir de plusieurs photographies de famille et d'amis. Et en exergue de ce même livre, vous citez une phrase de Denis Roche que vous évoquiez tout à l'heure, ami, auteur, photographe, qui disait « Ne rêvons pas, laissons aux photos d'être des ricochets et aux phrases d'être des poursuites », ça pourrait être la citation en exergue de cette même émission, puisque nous consacrons ce book club à l'idée d'écrire depuis les images, autour des images, à côté des images, en quittant les images. Quand on vous a invité, Marceline Delbecq, vous avez dit bah, « c'est parfait, c'est ce que je fais depuis 20 ans ». Alors qu'est-ce que c'est que cette pratique un peu particulière qui fait qu'on peut y consacrer un book club, on peut dire « ce sont des livres particuliers quand même, ce n'est pas exactement les mêmes livres que les autres ».
Alors, je pense que Envolée particulièrement est un livre extrêmement singulier pour moi. Il est comme une sorte d'aboutissement de 20 ans d'écriture autour avec par les images. Et c'est finalement c'est une sorte d'aboutissement dans la mesure où j'ai écrit dans ce livre-là sur des images dont j'ignorais totalement l'existence et qui pourtant font intrinsèquement partie d'une mémoire familiale dont tout le monde ignorait l'existence. Donc c'est comme des images sorties du chapeau.
Fantôme et plus fantôme ou autrement devenu fantôme.
Voilà, complètement fantomatique et en même temps extrêmement incarné. Donc c'était le paradoxe de cette trouvaille. Et c'est vrai que l'image photographique, même si je tente toujours de m'en départir, si actuellement j'écris aussi à partir d'autres choses, des chroniques qui sont plus de l'ordre de l'observation de la réalité, je ne cesse d'y revenir. Et c'est comme une sorte d'aimant. En 2022, j'ai soutenu une thèse du programme Sacre sur laquelle je m'étais promis d'écrire sur un ensemble de documents. Et finalement, j'ai écrit autour d'une seule photographie.
Est-ce que vous savez ce qui fait aimant, justement ?
Je dirais que c'est peut-être à la fois le mutisme des images qui tout d'un coup peut-être me fait tendre l'oreille pour certaines et me suggère de leur donner une matière supplémentaire
par les mots
voilà, et en même temps toujours cette fascination pour la présence absence des sujets dans une photographie par exemple. Et il me semble que c'est Jean-Christophe Bailly dans L'Instant et son ombre qui parle de photographie comme de copeaux. Un copeau qu'on extrait au réel sans pourtant l'altérer. Et ça, je trouve que c'est une image de l'image très belle. C'est que finalement, quelque chose demeure et on peut lui faire... dire ou raconter beaucoup d'autres choses que ce qu'elle montre.
C'est fou parce que vous rappelez l'idée de la présence-absence de la photographie. On peut dire que maintenant nous sommes habitués, qu'on s'y est fait à cette idée-là de l'image fixe ou de l'image filmique qu'elle met en présence et qu'elle met en absence. Et pourtant, c'est toujours opérant. C'est comme si ça marche toujours, ça nous raconte toujours que c'est là mais c'est pas là, c'est présent mais c'est absent. Comme s'il y avait quelque chose d'un peu d'irréductible dans l'image, son pouvoir de l'image, y compris nous aujourd'hui au XXIe siècle qui en faisons tout le temps, qui en regardons tout le temps, qui en effaçons tout le temps, ça demeure fort.
Oui, il y a un livre de Denis Roche qui illustre très bien ce que vous dites, qui est Le boîtier de mélancolie, où il a écrit autour de 100 photographies. Il a écrit autour de 100 photographies de manière très, très, très différente, quoi. Des histoires à la fois qui sont vraies, des histoires qui sont totalement inventées. Pour ma part, moi, les 12 textes que j'ai écrits, ils étaient une nécessité absolue. J'avais vraiment besoin d'écrire ces textes autour de ces photographies parce que ces photographies, sinon elles ne vivaient pas. Elles auraient totalement disparu, elles auraient été réduites au silence.
Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Ça veut dire que si vous ne parlez pas, si vous ne mettez pas de mots à côté de ces photos, elles n'ont aucune portée ?
Elles peuvent en avoir, mais elles vont du coup susciter l'imaginaire. Elles n'auront plus de réalité. Il n'y a rien de plus terrible que de voir toutes ces photographies qui sont dans des brocantes, des fois même le sol, des fois avec de l'eau sur elles et qui disparaissent totalement. J'arrive jamais à les jeter, quoi. Alors je peux pas toutes les acheter, mais il y en a qui en font commerce, comme Emmanuel Fructus, par exemple. Et ça, c'est très bien parce que ça leur donne une seconde vie. Je trouve ça merveilleux, quoi.
Oui, vous racontez, Guillaume Genest, que par exemple, pour vous, c'est un drame non fin et profond, de pas pouvoir mettre un nom sur un visage, sur une photographie, de pas pouvoir dire des histoires, qu'il y a quelque chose qui est comme injuste, impossible dans cette idée-là pour vous.
Ah, c'est quelque chose, moi, qui me prend aux tripes, vraiment. C'est-à-dire que quand je vois une photographie de famille, on avait de la chance dans notre famille d'avoir beaucoup de photographies. Mais les photos de groupe, ancienne, très ancienne, où on peut dire, ben là, il y a telle et telle personne, et puis les 50 autres, on ne sait pas qui c'est, je trouve ça totalement terrifiant. On se retrouve devant quelque chose où on peut voir, mais on ne saura jamais, quoi. Et on peut se dire, ben, peut-être que sur cette image, il y avait notre arrière-grand-mère, notre arrière-grand-père,
Ou quelqu'un d'autre.
Ou quelqu'un d'autre.
Moi, ça me fait aussi penser à ce que dit Michel Perrault et puis à toutes les personnes qui ont travaillé la micro-histoire en disant que finalement, la majorité des vies finissent dans les ténèbres, ne sont pas dites, ne sont pas nommées, il n'y a pas de nom qui correspond avec un visage. Il y a parfois, voilà, une sorte de disparition dans l'histoire et ça renvoie quand même à l'idée des vies minuscules d'une certaine manière, Marceline Delbecq.
Oui, je suis entièrement d'accord et... C'est vrai que cette question de sauver du néant...
Par le nom, par l'histoire.
Tous les sujets photographiques, moi finalement, c'est pas trop ce qui m'importe, surtout à l'heure actuelle où la production de photos est complètement délirante. Et on sait très bien que beaucoup d'entre elles vont de toute façon disparaître parce qu'elles vont s'effacer sur les téléphones qui se brisent. Mais en tout cas... En tout cas, la manière dont j'ai lu le livre de Guillaume, c'est dans cette idée de pas les faire disparaître complètement, c'est aussi de les faire émerger du néant pour le temps qu'elles vont durer et le temps que va durer la lecture. Mmh. Et effectivement, je me souviens de ces images que je n'aurais jamais croisées si on m'avait pas dit de regarder ce livre. Mmh. Donc, il y a quelque chose de très réussi dans ce projet, c'est de faire exister des images qui en plus, n'ont pas du tout de velléité d'être des images artistiques pour la plupart et qui sont devenues quelque chose à travers l'écriture.
Oui.
Et par le même geste, excusez-moi, mais faire aussi exister des êtres. C'est-à-dire que on entend bien, c'est un projet différent et on va peut-être préciser les images que vous utilisez les uns les autres, mais il y a quand même l'idée de sauver du néant, de l'oubli, des visages avec des noms. Des vies dans des endroits, c'est assez précis la manière dont d'un seul coup, imprimé sur des pages, il y a ça qui se passe et c'est très fort. Alors au début du livre, Marceline Delbecq, il y a un suspense, on voit apparaître une image, c'est une vente aux enchères, peut-être on peut parler de cette image en particulier ?
Alors, il s'agit d'un portrait peint, pas photographique justement, qui est un portrait de ma grand-mère Daria, peint par un peintre russe, Chouraev, à une date encore imprécise, et qui a été vendu aux enchères à Drouot en 2008, et qui a été pour moi le point de départ de l'envie d'écrire quelque chose. Et à ce moment-là, il s'agissait pas du tout d'écrire sur des images. Au contraire, j'avais pas spécialement envie d'écrire sur ce portrait qu'elle détestait. Et ça a été pour moi l'occasion de faire un voyage en Russie, mais pas du tout d'être à la recherche de matériaux photographiques. C'est ce que je raconte dans le livre. Je suis allée dans certains lieux, j'ai cherché des registres, voilà.
Vous avez plus ou moins trouvé, comme souvent.
Plus ou moins trouvé, voilà. Et j'ai plus ou moins cherché aussi, parce que c'est bien de pouvoir d'avoir une latitude à partir de ce qu'on trouve pour inventer ce à quoi on a envie de croire aussi. Et c'est vrai que ce portrait a été vraiment un point de départ.
Quand vous vous mettez en route et que vous commencez à travailler, à quel moment arrive cette fameuse photographie de 1919, qui n'est pas complètement une photographie d'ailleurs, sur votre chemin, Marceline Delbecq ?
Alors ça, c'est arrivé en 2018, donc 10 ans plus tard. Donc c'est dire que ce petit livre fragmentaire a mis beaucoup, beaucoup d'années à s'écrire. À l'époque, donc je faisais mes recherches de thèse et il se trouve que j'ai lu un texte au Festival Hors Piste au Centre Pompidou, qui s'appelait La Nation et ses images, dans une installation d'Adrien Genoudet qui projetait des films des archives Albert Kahn. Et ce texte, qui était une sorte de début d'envolée,
Envolé dans le titre du présent livre.
Voilà, mentionné Albert Kahn. Et à la fin de cette lecture, une femme est venue me voir et m'a demandé pourquoi j'avais parlé d'Albert Kahn. Et elle m'a dit qu'elle travaillait au musée Albert Kahn et elle m'a proposé d'aller au musée chercher éventuellement des autochromes de ma famille. Je connaissais l'existence de 2 autochromes dont je supposais qu'ils venaient des archives de la planète. J'en avais des tirages papier. Mais ce que j'ai découvert en y allant, et qui était complètement stupéfiant, ça a été cette séquence filmée, donc de 25 secondes, dans laquelle toute ma famille traverse la partie japonaise du jardin, en arrivant vers moi, et un nombre incroyable de plaques autochromes qui sont toutes numérisées à l'heure actuelle. Ça n'était pas le cas en 2018, donc ils sont entièrement visibles sur le portail des collections. Et ce qui m'intéresse et me fascine, c'est que ce sont à la fois des archives familiales, des archives de l'histoire de la photographie et des archives de l'histoire tout court qui ne nous appartiennent pas.
On va écouter une question de notre auditrice Sylvie. Elle a lu votre livre, Marceline Delbecq.
Bonjour toute l'équipe du Book Club et bonjour Marceline Delbecq. Je vous remercie infiniment de l'opportunité qui m'est donnée de pouvoir m'adresser directement aujourd'hui à Marceline et de lui dire combien j'ai été enchantée par la lecture de son ouvrage Envolée. Et j'ai vraiment été touchée en plein cœur par ce récit très personnel. Il y a beaucoup de charme, beaucoup de grâce. C'est un petit bijou de lecture que je vous recommande. Bien évidemment, on ne peut pas s'empêcher d'être troublé par l'histoire de votre famille et surtout par les coïncidences très étonnantes qui vous ramènent à elle et comme vous l'écrivez si bien dans votre ouvrage. J'aimerais savoir si fouler le sol du jardin japonais Albert Kahn à Boulogne récemment vous a apporté une sorte d'apaisement. Je vous remercie.
Ben c'est nous qui vous remercions, Sylvie, pour cette question, pour cette lecture si enthousiaste. Marceline Delbecq, on va du début de votre livre à la toute fin, puisqu'il est question de ce retour sur les lieux à la toute fin. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à Sylvie ?
Alors, merci Sylvie, parce que c'est un retour extraordinaire à entendre. Alors, ce jardin Albert Kahn, je l'ai découvert autour des années 2010. J'y suis allée une première fois et j'ai été très marquée notamment par la présence du pavillon japonais.
Pour nos auditeurs, c'est un jardin qui est situé à Boulogne-Billancourt, en Île-de-France, voilà, et où il y a beaucoup de végétation.
Voilà, et la particularité du projet de Kahn, c'était de faire un jardin composé de jardins venu du Japon, d'une forêt vosgienne, un jardin britannique. Voilà, c'était un jardin complètement composite pour donner l'impression qu'on passait d'un monde à l'autre, finalement, après quelques pas. Et donc, évidemment, à cette époque-là, j'ignorais complètement l'existence de ces images. Et quand j'y suis retournée, Alors, je ne sais pas s'il s'agit d'un apaisement, plutôt d'un trouble, en fait, de me trouver exactement au même endroit. Alors, les choses ont un petit peu changé depuis, notamment le Tori qu'on voit dans la séquence de film a été transformé. Je pense qu'il a changé de place aussi.
Une sorte de grande porte japonaise.
Grande porte, voilà. Et j'ai passé un moment comme ça dans une sorte d'état d'apesanteur, également parce que entre temps j'avais découvert le Japon et que le Japon a été un endroit qui est arrivé dans ma vie à un moment où j'avais besoin de le rencontrer, voilà, comme ça peut arriver avec certains livres. Et donc ça a fabriqué un mélange très introspectif finalement de me dire que tout ce que j'avais entrepris à partir des images depuis 20 ans se retrouvait peut-être quelque part dans ce jardin. Voilà, c'était une expérience extrêmement intense pour moi. Et puis après, je suis repartie, j'ai pris le métro et je suis retournée au réel.
Est-ce qu'il y a quelque chose justement qui se joue quand on visite des lieux qu'on a vus en photographie avec la fréquentation des photographies que vous avez l'un et l'autre, où on cherche à ce que les choses se superposent, ou vous n'êtes pas dans cette dynamique-là, Marceline Delbecq?
Alors, je crois pas que je sois dans cette dynamique-là habituellement, mais là, en l'occurrence, j'étais complètement à la recherche de quelque chose en y allant. Et sinon, là, je sais pas pourquoi me vient une photographie d'un champ de bataille prise en 1915 et récemment je suis allée exactement sur les lieux des batailles et voilà, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui se fabrique entre la temporalité qu'on reçoit d'une image au présent de la catastrophe et puis de se trouver sur les lieux tant d'années après. Donc finalement, il faut trouver les signes de ce qu'on avait interprété dans l'image.
Guillaume Jeunesse, sur cette éventuelle distance ou raccord entre des images du passé et des lieux qu'on visiterait au présent, qu'est-ce qu'on y ferait, qu'est-ce qu'on y recherche ?
Pour moi, la photographie a tellement plus à voir avec la vie qu'avec la mort que je rejoins tout à fait le J'y étais de Denis Roche. Excusez-moi de le citer encore,
mais citez-le, vous le citez beaucoup.
Beaucoup plus que le Ça a été de
Roland Barthes.
De Roland Barthes, bien évidemment. Donc oui, elle est de ce côté-là. J'adore aller sur les traces de là où ça s'est passé, de là où j'ai vu une image.
C'est presque un élan pour y aller, l'image. C'est une façon d'y aller qui demande à être complétée par le mouvement. On va écouter une archive d'une romancière qui s'appelle Anne-Marie Gara, qui parle des images, et juste après un extrait de votre texte, Guillaume Jeunesse.
Ça peut parler, une photo. C'est une voix silencieuse, c'est une espèce de paradoxe. Enfin, il faudrait peut-être l'éclairer, justement. La rendre audible, cette voix. Je crois que c'est une voix du silence, mais qui suppose qu'on ait l'oreille exercée, c'est-à-dire en fait l'œil exercé. Moi, je crois qu'il y a un apprentissage du regard, de l'œil, qui fait qu'on peut déceler dans la photographie la plus ordinaire, la photographie de famille en particulier, quelque chose qui nous parle. Elles sont gardiennes d'une certaine mémoire et peut-être même qu'elles sont les ennemies de la mémoire.
Quand j'ai commencé, peu après les années 2000, à rassembler toutes nos photographies de famille, jamais je n'aurais pu imaginer que nous possédions de tels trésors. Avec le temps, j'ai réuni plusieurs centaines de photographies d'époques très différentes, dont certaines sont très anciennes. Ce n'est que des années après les avoir toutes numérisées, et voyant les sources de mes recherches se tarir, que j'ai demandé à nouveau à mes oncles et à mes tantes s'ils n'avaient pas déjà vu l'un d'eux filmé lors d'un anniversaire, d'un baptême ou d'un mariage. Après avoir visionné tous ces films, j'en fis réaliser une copie numérique pour partager cette mémoire avec toute ma famille. Double en tout point identique à l'original et facilement duplicable, le numérique offre et incarne une promesse de partage inespérée. Quelques semaines plus tard, l'entreprise à qui j'avais confié la réalisation de ce transfert m'envoya par mail un lien vers un court passage d'un des films, me prévenant par cette merveilleuse attention que ma commande était prête. Je me souviens avoir été fortement émue en reconnaissant mon arrière-grand-mère, Jeanne Bouton, dans son jardin, bêchant et ramassant ses patates à l'âge de 80 ans, comme je l'avais toujours entendu dire, sans avoir pu mettre sur ce souvenir, jusqu'à ce jour en tout cas, d'autres images que celles que je m'étais fabriquées mentalement. Cette nouvelle image effaça ces dernières à tout jamais. Je restais un long moment devant l'écran de mon ordinateur à contempler cette image fixe qui, par un simple clic de souris, allait faire apparaître à nouveau la vie. L'intense plaisir que je ressentis à ce moment-là exalta mon envie de faire naître de nouvelles images fixes à partir de tous nos films. Dès leur réception, je me lançais, comme un photographe peut le faire en voyageant à l'autre bout du monde, dans un reportage des plus statiques et des plus palpitants qu'il m'eût été donné de vivre. Chaque instant choisi sur l'écran de mon ordinateur donnait vie à de nouvelles images fixes au-delà de la mort des êtres aimés. C'était totalement magique et inespéré. Je faisais un véritable voyage dans le temps où rien n'aurait pu m'arrêter.
Un extrait de votre texte, Guillaume Geneste, lu par Auriane Delacroix dans notre book club consacré à ces livres écrits à côté, à partir des images. Ici, la situation est particulière puisque on a à la fois l'idée des images en mouvement et des images fixes, mais aussi, et pour reprendre ce que disait Anne-Marie Garat dans l'archive de 1994, des images qui remplacent la mémoire ou qui effacent la mémoire. Comment ça s'est passé pour les images que vous avez réunies pour ce texte-là, tout autour de la photographie?
Pour celle-ci précisément, c'était une image que j'avais en noir et blanc, que je m'étais forgée à partir des mots qu'on m'avait dit. On m'avait dit, mais ton arrière-grand-mère, elle était toujours en pleine forme, elle ramassait les patates dans son jardin, et je m'étais construit une image, quoi. Et quand j'ai eu tous ces films entre les mains et que je les ai regardés, j'ai eu envie à nouveau de photographier. Et c'était extrêmement excitant pour moi de faire cela. J'ai fait ça aussi avec une autre image qui n'est pas ici, que j'ai pas reproduite dans le livre, qui est une image de la tante qui a élevé ma mère. Et que ma mère, aussitôt qu'elle a vu cette image dans du papier, puisqu'elle n'avait jamais vu le film, elle me dit « Mais où est-ce que tu as eu cette photo ?» Comme si c'était une photo qui était une photo récente. Et c'était une photo récente, puisqu'elle ne l'avait jamais vue, mais une photo récente d'un film qui avait existé, qui avait été fait 30 ans, 40 ans auparavant, quoi.
Qu'est-ce que vous diriez que ça change de fixer comme ça une image fixe à partir d'un film en mouvement? Qu'est-ce que ça produit, Guillaume Geneste?
Ça crée à nouveau du réel dans un passé. C'est ça qui est très étrange. C'est un sentiment très, très bizarre.
Comme si on produisait du nouveau partir d'un réel auquel on n'a plus jamais accès.
Et oui, c'est pour ça que je dis que j'ai fait un reportage, parce que je me souviens vraiment avoir fait un reportage. C'était captivant que de sélectionner. Alors, une image, on le sait, un film, c'est 24 images secondes, mais j'avais toujours l'impression qu'il y avait un entre-deux entre ces images. Un entre-deux qui n'existe pas. Je l'arrêtais et ben non, c'était l'image d'après, tout simplement.
Quand vous vous lancez dans l'écriture de ce texte, tout autour de ce livre-là, tout autour de la photographie, il faut en choisir des photographies. Elles ont des statuts différentes, elles ont des histoires différentes. Il y a des très vieilles images, il y a des images plus récentes, il y a des images qui ont trait avec votre généalogie, des aïeux et puis des amis. Comment est-ce que vous avez choisi vraiment là le travail d'icono, Guillaume Geneste?
Alors là, vraiment, ce sont des obsessions. Ce sont des images qui revenaient en permanence, qui m'habitaient totalement. Pour l'histoire, il y a une histoire autour des champignons. Alors là, l'image n'existait pas, étrangement. L'image, elle est venue après. Elle est venue des décennies après. Un jour, mon parrain m'envoie un mail et me dit « Tiens, regarde, quelqu'un du village a photographié la maison où, pour lui, ses grands-parents, pour moi, mes arrière-grands-parents, là où a eu le drame, où les enfants sont tous décédés suite aux champignons qui ont été ramassés par nos ancêtres. » Et donc, hop, une image apparaissait.
Alors, c'était quoi cette image?
Eh ben, c'est l'image de la maison, une image d'une banalité sans nom, quoi. D'ailleurs, l'image qui est reproduite dans le livre, c'est une capture écran de la photo qui a été scannée. Enfin, peu importe, techniquement, c'est rien du tout. Mais je pouvais mettre tout d'un coup... Il y a cette image de cette maison avec ce puits, rien d'autre.
Qu'est-ce que ça change, justement? Je pense à notre auditeur Frédéric qui a lu votre livre, Guillaume Jeunesse, et qui, justement, à propos de ce chapitre très précisément, où il n'y a que la photographie, entre guillemets, d'un Google Maps ou d'un, voilà, d'une sorte de, et votre texte qui charge la photo de la maison d'une autre vibration. C'est-à-dire que c'est parce qu'on lit votre texte, Guillaume Jeunesse, qu'on a accès à ce drame de plusieurs enfants d'une famille qui meurent après avoir ingéré des champignons. Si on n'avait pas vu cette photographie, si on n'avait pas lu, pardon, le texte, la photo de la maison aurait été parfaitement banale. Et notre auditeur Frédéric dit, le plus important, est-ce que c'est pas ça, justement? Est-ce que c'est pas les histoires qui se racontent autour des images?
Ben bien sûr, c'est tout autour de la photographie, c'est le titre même, le titre même du livre, quoi. Oui, vous faites allusion tout à l'heure à une capture d'écran. Là, c'est pas la même chose, hein. Là, c'était une image, un photogramme, hein, sorti d'un film, l'image dont on parlait avant, celle des champignons. L'image de la capture d'écran. Alors là, c'est encore plus fascinant quelque part parce que je savais où mon grand-père était né. Et quand j'ai reçu l'acte qui m'a été retourné par la mairie de Marseille, j'ai eu l'adresse où il était né. Et j'avais aucune maison, je ne savais pas l'endroit où il avait vécu. Et j'ai tapé sur Google Maps et je me suis retrouvé vis-à-vis, là aussi, d'une image. Finalement, c'est l'image qui a illustré le texte que j'ai écrit.
D'une certaine manière, est-ce que vous diriez les uns et les autres que vous avez eu à faire pour ces livres-là à des images dont vous ne saviez pas qu'elles vous manquaient? Parce que quand vous en parlez, quand vous écrivez à leurs propos, il y a quelque chose qui vient se mettre à un endroit vide ou se mettre à un endroit creux. Mais est-ce que vous les cherchiez, ces images, auparavant?
Non. Moi, les deux images là dont je vous ai parlé avant, les champignons ou le lieu de naissance de mon grand-père, non, je les cherchais pas. Elles sont venues. Et c'est les deux seuls exemples. Les autres images que j'ai choisies dans le livre sont des images qui existaient et à partir desquelles j'avais envie d'écrire. C'était très différent dans ce cas-là.
Et pour vous, Marceline Delbecq?
C'est exactement ça. Je les attendais pas, je ne les cherchais pas. Et une fois qu'elles sont apparues, finalement, ce qui m'a intéressé, c'était de comprendre à quel endroit elles me mettaient au travail avec l'écriture.
Justement, j'allais y venir, c'est-à-dire à partir du moment où vous les trouvez, où vous les rencontrez, où elles viennent à vous, qu'est-ce que ça change dans l'écriture du texte ou qu'est-ce que ça produit? Pourquoi ça fait écrire ou comment ça fait écrire?
Alors ça, c'est une question extrêmement complexe. Comment ça fait écrire? J'ai l'impression que finalement, c'est un processus que j'utilise depuis de nombreuses années, mais que j'ai jamais vraiment mis en mots. Je dirais que ça produit une forme de fébrilité qui me met dans un état d'écriture latente, dont je ne sais pas encore ce qui va advenir. Et ça me rend poreuse à toutes sortes d'autres choses dans le temps que j'alloue à cette écriture. Ça paraît un peu compliqué, mais...
C'est pas un appui. Au contraire, ça vous rend pas plus solide d'avoir une image sous les yeux que vous pouvez décrire, dont vous pouvez parler des contours, des silhouettes. Au contraire, vous parlez d'une fébrilité.
Oui, parce que finalement, l'image disparaît assez vite. Une fois que je commence le travail d'écriture, elle peut complètement disparaître et réémerger par moments parce qu'effectivement j'ai besoin d'un point d'appui et c'est quand même souvent de là que ça vient au départ. Mais disons qu'elle s'affranchit complètement du travail lui-même qui est, à mon sens, le travail d'écriture est extrêmement différent de celui de fabriquer des images photographiques. Il y a une temporalité de l'écriture qui est plus de l'ordre de la révélation et du tirage argentique finalement que de la capture de l'image elle-même. Et ce temps-là, en fait, il est complètement flottant et il se départit très facilement de l'image de départ.
Je voudrais qu'on évoque par vos mots, Marceline Delbecq, une deuxième image qui apparaît dans votre texte, dans votre livre Envolé. On peut dire quand même que pour l'un et pour l'autre des livres, il y a un magnifique travail d'édition, que ce soit chez Essenson ou chez La Main d'Homme. Et en effet, quand cette deuxième image apparaît, il se passe quelque chose aussi qui est relatif au livre, quoi. Ce qui se passe quand on tourne une page et que quelque chose de nouveau apparaît. On écoute le texte qui la jouxte.
«
assise sur un banc du jardin de la Villa Miramar, son bras droit posé sur le dossier pour paraître plus détendue qu'elle l'était sans doute. Elle est vêtue d'une robe à volant et chapeau assorti déposé sur sa chevelure bouclée à l'anglaise. Elle porte un bracelet, des chaussettes mi-longues et des souliers d'un blanc immaculé. Au-dessus du chapeau, la mer trace une ligne horizontale, comme si l'on avait déroulé pour la pose une toile de fond un peu floue. La végétation luxuriante s'intercale entre elles et le mirage d'eau à perte de vue. Le soleil projette son ombre sous le banc. On ne sait pas ce qu'elle regarde, ni jusqu'où son regard s'est perdu dans ses propres pensées. En la dévisageant sur la table lumineuse, j'oublie que cette délicate image, formée de millions de grains de fécule de pommes de terre, capable de restituer avec une fidélité sidérante la carnation des sujets, a été l'ancêtre de la diapositive. Dia signifie « traverser ».
Cette fois, on est en 1921 pour la date de prise de vue, numéro d'inventaire A403-13. Toujours assez beau tous ces numéros dans les archives. Marceline Delbecq, quand est-ce qu'elle apparaît dans le processus d'écriture, cette deuxième image ?
Alors, cette deuxième image n'était pas censée être dans le livre. J'ai écrit à partir d'elle, mais je n'avais pas prévu de l'inclure dans le cours du texte. Et c'est en discutant avec Adrien Genoudet, donc le directeur de la collection Fléchette, et Céline Pévrier, l'éditrice. Voilà, c'était leur envie au départ. J'ai longuement mûri cette décision. Et finalement, je suis très contente qu'elle y soit. J'étais très émue d'entendre ce texte dit par quelqu'un d'autre, parce que ça m'arrive de le lire. Et...
c'est toujours différent. C'est pour ça qu'on vous propose ça dans les émissions, généralement.
Et c'est très bien, parce que ça, c'est aussi un moment de vérité, de savoir si le texte vaut quelque chose ou pas. Et c'est vrai que cette image était là depuis quasiment le départ, puisque j'ai une image jumelle dont j'ai un tirage papier. Disons qu'il existe plusieurs autochromes de ma grand-mère dans cette situation, dans ce jardin du Cap Martin, et que certaines ne sont pas dans les collections du musée Albert Kahn. Donc j'avais connaissance de sa présence à cet endroit. Et voilà, elle est arrivée au cours du livre et cette idée de la faire surgir au cours de la lecture, je pense que c'est aussi une manière de pas toujours faire disparaître les images non plus, ce qui est aussi ma tendance.
Oui, mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire la force persistante de ce truc-là qu'est une photographie ou qui est une image, qui est que quand ça arrive, alors aussi parce qu'elle est agencée dans du texte, avec une édition, etc., mais ça produit quelque chose. Ce qu'on entendait aussi dans la voix d'Oriane Delacroix, c'est la façon dont les mots renseignent le procédé technique. C'est présent, de la même manière que vous parlez du daguerreotype du pauvre Guillaume Genest, oui. Vous parlez des techniques, vous parlez de la lumière qui traverse, vous parlez de ces particules voilà, qui donnent la carnation des peaux. Qu'est-ce que ça a comme place dans les textes que vous écrivez, Guillaume Genest, la conscience de la matérialité de ces images ?
Vous parliez de la qualité, là, dans le cas des deux éditions, c'est que, je trouve ça important de le dire, l'image, elle est mise sur le même plan que l'écrit. Quand on regarde et quand on ouvre les livres de Café Céline ou les livres que fait David Fourré, vous pouvez regarder une image, elle cause d'égal à égal.
Et on peut dire aussi, Guillaume, que c'est vous qui tirez les autochromes présents dans les livres de la collection Fléchette.
Oui, il y avait une demande particulière de Céline qui est de restituer, parce qu'il s'agit donc bien ici là aussi d'un objet qui est dans le livre, et de restituer à la fois de manière opaque et transparente l'objet de l'autochrome.
Quelle place ça tient, Marceline Delbecq, pour terminer cette idée de la matérialité des images ? Ici, vous évoquez la technique, je le disais dans le livre de Guillaume Genest, ça apparaît aussi. Ce n'est pas une petite information ?
Alors, dans le cas des autochromes, c'est pas, effectivement pas une petite information parce que c'est une technique photographique qui a eu un temps de vie extrêmement courte. Et pour autant qui montre un état du monde en couleur, comme on ne le soupçonnait pas, puisqu'on ne le connaissait quasiment qu'en noir et blanc. Donc ce sont des images totalement surprenantes. L'ensemble de la collection Albert Kahn est vraiment incroyable à ce titre-là. Et surtout, moi ce qui m'impressionne beaucoup, c'est que ce sont des plaques de verre, et que donc elles ont traversé le temps. Celles que j'ai eu l'occasion de voir sur une table lumineuse étaient rangées dans une boîte, vraiment, elles étaient très très serrées dans cette boîte, et finalement c'est un support qui est tellement fragile que toutes ces images auraient pu disparaître du jour au lendemain, et pourtant elles sont encore là. Donc ça participe aussi de cette incroyable présence de l'image qui a perduré en dépit de sa fragilité.
Merci beaucoup à tous les deux. Envolé, apparu dans la collection Fléchette chez l'éditeur Sunson, et Tout autour de la photographie, apparu chez Poursuite et Ricochet, c'est le nom de la collection dans l'édition La Main Donne. Merci beaucoup.
Merci.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Toujours 15h50 sur France Culture dans le Book Club. Tous les lundis, on a rendez-vous avec vous. Emmanuel Laurentin, bonjour.
Bonjour Marie.
Samedi soir, avant le match de football Nantes-Nice qui se jouait à Nantes, un supporter nantais a été tué d'un coup de couteau dans la confusion. Et alors que les supporters des deux équipes se retrouvaient, c'est un drame que le premier adjoint au maire a commenté ainsi. La violence n'a sa place ni dans les enceintes sportives, ni en dehors. Et ça, ça vous a fait, comme on vous le demande, ouvrir un livre.
Exactement. C'est cette phrase qui m'a fait penser à une lecture que m'avait suggérée il y a des années notre ami Sylvain Bourmeau, à la fois producteur sur cette chaîne et fervent supporter du FC Nantes, quand nous avions parlé de foot et de supporterisme. Il m'avait conseillé de lire, et je l'avais pas lu à l'époque, Football Factory de John King. Ça ne se passe pas à Nantes, mais dans le milieu des supporters de Chelsea, le grand club de Londres, dont nous suivons trois membres, ivres chaque soir de match et vivant chichement de boulot mal payé le reste du temps, les teigneux Tom, Mark et Rod. Ce sont des hooligans. Ils haïssent tout le monde, les supporters des autres clubs, de Tottenham, de Manchester, de Coventry, les femmes, les juifs, les pakistanais, les homosexuels, les arabes. Voici ce que dit Tom de ce qui les anime, ces hooligans. Le foot nous donne quelque chose en plus. La haine, la peur nous rendent différents et on est issu de la majorité silencieuse, ce qui fait que les connards qui nous dirigent n'arrivent pas à nous repérer. Nous partageons la plupart des idées de la masse, mais nous les avons adaptées à nous. Nous sommes un peu de tout.
Alors, quel portrait fait l'auteur John King de ses supporters, Emmanuel ?
Alors, c'est assez simple. Chaque soir de match commence par un guet-apens pour tabasser d'autres groupes, pleins de la même haine qu'eux, car la bagarre d'avant-match compte autant que le match lui-même et que la cuite d'après au pub. Et Tom l'explique ainsi. Nous sommes de Chelsea et fiers de l'être. On prépare un plan, on sait où trouver Tottenham avant le match, et là ça va être autre chose parce que Chelsea débarque toujours en force quand Tottenham joue à domicile. On a toujours haï les Spurs. C'est normal, c'est sain, ce sont des feuges, ils portent la calotte, ils agitent leur étoile de David, histoire de bien nous exciter. Nous sommes des gars de Chelsea, à l'ouest de Londres, des anglo-saxons.
Racisme, antisémitisme, sexisme, homophobie, le portrait n'est pas super glorieux, on peut dire que tout y est, Emmanuel Laurentin.
Exactement, mais il n'oublie pas non plus, John King, de décrire le milieu social de ses supporters et leur détestation d'abord du pouvoir politique, de la police, des médias. Les flics ne mettent pas de caméras dans les quartiers pauvres comme Tottenham, note Tom. Ce qui les intéresse, c'est de protéger la City et les connards friqués de Hampstead et de Kensington. Ils n'en ont rien à foutre des paumés d'ici. Et Tom de dérouler ailleurs dans ce roman son catéchisme. Schisme punk, no future, tout le monde porte un insigne, partout où tu regardes, tu vois des uniformes et tout signifie quelque chose, et rien en même temps. Et quand les flics, les politiciens et le connard de base se mettent à gémir d'une seule voix sur les bagarres entre voyous qui perturbent leur petite vie de quartier et salissent le noble nom de l'Angleterre, on leur rit au nez, et on leur pisse à l'arrêt. Football Factory, c'est n'est que le premier volume d'une trilogie sur les obsessions de John King, le foot, le hooliganisme, le punk et ce qui distinguait l'Angleterre d'après Thatcher d'autres pays européens. Ça se termine par quoi ?
Sur un coup de couteau.
Exactement, loin du stade, trop surveillé par les caméras, car John King a bien compris comment le hooliganisme sert également de banc d'essai à une société de surveillance que les supporters tentent de contourner par leur nihilisme violent en allant dans les coins un peu plus sombres. J'ai relu Football Factory 15 ans après ma première lecture, dans sa remarquable traduction d'Alain de Fossé. C'est d'abord le portrait d'une société qui se déchire, car comme le dit l'anti-héros de John King, Tom, l'Angleterre commence à craquer aux coutures. Nantes n'est évidemment pas Chelsea, Nice n'est pas Tottenham, mais relire John King nous dit quelque chose des sociétés qui craquent et des supporters insupportables qui en révèlent les craquelures.
Voilà, je ne sais pas si ça nous effraie ou si ça nous aide à penser, Emmanuel Laurent.
Ah, ça, je vous laisse avec.
À l'approche des Jeux Olympiques de Paris.
Ah oui, ça fait partie effectivement des données. C'est publié au Diable Vauvert. On peut le trouver aussi sur toutes les plateformes de lecture, si on veut. Et c'est publié au Diable Vauvert. Ça s'appelle Football Factory. C'est John King, mais ça n'est que le début. J'ai pas lu les deux autres d'une trilogie sur ce sujet.
Merci, Emmanuel Laurent. J'ai oublié de dire qu'en parlant de football, on pouvait aller voir l'installation de Parreno et Becker à la Philharmonie autour de Zinedine Zidane, un portrait du XXIe siècle. Voilà, ça offre une autre expérience,
et peut-être
un peu plus fédératrice,
plus joyeuse,
un peu moins fracturée. Voilà, exactement. 15h55, c'est l'heure du grand jeu des pages musicales. Je rappelle le principe à nos auditories. Vous êtes en train de lire, vous repérez l'évocation d'un air musical dans un paragraphe de texte. Vous nous l'envoyez ou bien par l'Instagram du Book Club Culture ou bien via l'adresse mail lebookclub@radiofrance.com et tous les jours, on en pioche un. Aujourd'hui, l'extrait est proposé par Josie. Merci à elle. Il est repéré dans le livre « Les clés du couloir » de Fanny Saint-Aunoy, paru en 2023 aux éditions Arléa. Le livre se situe dans un monde où la liberté, la création et le mélange des cultures n'existent plus. Petra, c'est le personnage qui est emprisonné pour athéisme. Elle se refuse à renier tout ce qu'elle fut. Seuls les mots et leur pouvoir l'empêchent de sombrer. Et elle écrit à un autre prisonnier. Demain, je chanterai à Sœur Constance ma chanson préférée de Brel, la plus mystérieuse pour moi. La ville s'endormait et j'en oublie le long. Sur le fleuve en amont, un coin de ciel brûlait. Je prends un risque avec ce texte plus complexe, mais à force, je m'ennuie et j'aime bien la regarder réagir autrement. La voix du grand Jacques me reste si fort en tête. Elle s'amplifie de séance en séance. Sa force, son souffle, la salive au coin de ses lèvres, les tremblements. Quand je la fais revivre, je pense à mon père, dont les yeux s'embuaient dès qu'il évoquait son idole. Cela nous changeait d'Amalia Rodriguez. Nous jouions à ce jeu. L'un commençait la phrase et l'autre devait la continuer. Je gagnais toujours. J'avais mes meilleures mémoires que lui, ou alors il me laissait triompher. Et vous êtes passée, demoiselle inconnue, à deux doigts d'être nue, sous le lin qui dansait. Avec ça, je devrais la garder captive, ma petite religieuse. Dormez bien, chère amie. Mon âme frère d'en face, Petra.
La ville s'endormait, j'en oublie le nom. Sur le fleuve en amont, un coin de ciel brûlait. La ville s'endormait, j'en oublie le nom. Et la nuit, peu à peu, et le temps arrêté, et mon cheval boueux, et mon corps fatigué. Et la nuit, bleu à bleu, et l'eau d'une fontaine, et quelques cris de haine versés par quelques vieux, sur de plus vieilles queues dont le corps sans sommeil.
Au son cet après-midi, c'était Clara Galivelle à la réalisation, Vivien Demeyer. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club qui pense et prépare ces émissions avec moi. Anouk Delfino, Marianne Chassor, Oriane Delacroix, Léa Weiss-Grus, Mathilde Wagman, Jeanne Aléos, Didier Pinault et Alexandre Alaï-Begovic. Vous pouvez la réécouter sur franceculture.fr et pourquoi pas vous abonner au podcast via l'application Radio France. Très bel après-midi sur Culture.